Ils sont de moins en moins nombreux. Les Français les aiment, leur cherchent des conjoints, mais leur demandent aussi des comptes. Qui sont-ils? De quoi est fait leur quotidien? Pourquoi exercent-ils ce métier? Et d'ailleurs, est-ce vraiment un métier? Les agriculteurs nous nourrissent, façonnent nos paysages. Pour mieux les comprendre et mieux apprendre à les aimer, on va prendre le petit déjeuner avec eux et essayer de mettre nos pieds dans leur bottes.
Il est des rencontres inattendues qui devaient se faire. Je ne devais pas aller voir Alexis, mais le désistement d'un agriculteur à la dernière minute m'a permis de me rendre à Cordon, en pleine canicule estivale. Alexis respire la joie de vivre et l'épanouissement d'exercer son métier d'agriculteur dans cette ferme où sa famille est présente depuis le 19e siècle. S'il traite ses vaches dans un cadre exceptionnel, face au massif du Mont-Blanc, il doit aussi concilier son activité avec les autres usagers de la montagne. Il nous permet de comprendre qu'une bonne tartiflette n'existerait pas sans ses prairies. S'il n'a pas réalisé tous ses projets de jeunesse, il est fier de pouvoir faire pâturer ses vaches en alpage selon la tradition locale. Le lait qu'il produit pour la production de Roblechon et de Beaufort lui permet d'intégrer totalement son activité dans la culture savoyarde à laquelle il est tant attaché. Ce matin-là, nous avons discuté tarine, maison secondaire et nature. Allez, on essaie ses bottes ? Bonjour Alexis.
Bonjour Mathilde.
Je te remercie de m'accueillir chez toi un peu dernière minute, mais c'est vraiment super gentil de ta part. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît?
Donc, je m'appelle Alexis Botelier, j'ai 28 ans.
27, pardon.
je suis donc dans un petit village de Haute-Savoie, à Cordon, face au Mont-Blanc. Je suis installé depuis 2020 sur la ferme familiale. Où j'ai repris à la suite de mon papa, et donc il a pu enfin prendre la retraite.
D'accord, ok. Tu dirais que tu es quel agriculteur, si tu devais te décrire en tant qu'agriculteur?
Pour moi, je suis un agriculteur passionné, et j'aime la nature par-dessus tout, donc je la respecte au maximum.
Et alors, comme le podcast il s'appelle Dans leurs bottes, la question rituelle du début, c'est comment elles sont tes bottes?
Et bah déjà, pour commencer, notre exploitation s'appelle ERL, la ferme des bottes.
Ah bah, tiens, tu vois, on est fait pour se rencontrer. Donc, tu as des bottes.
Voilà, donc en fait, parce que notre famille, c'est Botelier.
D'accord,
du coup,
ok.
C'est des bottes.
Donc, c'est rigolo. Est-ce que tu peux me raconter un peu ton enfance? Où est-ce qu'elle s'est passée? On va dire jusqu'à la fin de l'école primaire. Qu'est-ce que c'était tes jeux? C'était quoi ton quotidien? Voilà, comment t'as grandi?
Et ben, moi, j'ai bien grandi dans la ferme familiale. Donc, avec ma sœur, on était plus assidus à faire du petit râteau et aider nos parents à l'heure de nos vacances, bien qu'on parte en vacances une semaine au mois d'octobre.
D'accord.
Bien souvent. Donc, dans un petit village où il y a pas mal de traditions et de coutumes, avec pas mal de fêtes de village l'été.
Ouais.
Donc, toujours assidu, soit dans les champs, soit dans les associations.
D'accord. C'était important pour toi d'être dans les petites assos et tout ça?
Ouais, ouais, ouais. Bah, je le suis encore, et j'aime échanger avec aussi, justement, avec d'autres personnes du milieu agricole.
D'accord.
Ça permet de discuter beaucoup.
Mmh. Ok. Tu finis l'école primaire, tu rentres au collège. Le collège, tu le passes dans la vallée, du coup, j'imagine, vers Sallanches?
Oui, je passe à Sallanches.
Ok, d'accord. Et une fois que tu arrives à la fin du collège, se passe la question de l'orientation. Et donc, j'imagine que tu vas dans un lycée agricole.
Donc, moi, c'était plutôt facile parce que je le savais depuis le début.
D'accord, ok.
Bon, j'ai baigné dedans depuis tout petit, même bien que mes parents ne me forcent pas du tout à aller dans l'agriculture, et même plutôt à l'inverse.
D'accord.
Depuis tout petit, je le savais. Donc, je suis allé à l'école agricole de Poisy.
D'accord.
Lisetta, où j'ai fait un bac technologique.
D'accord.
Un BTS.
D'accord, alors t'as fait un BTS quoi du coup?
BTS AXE.
D'accord.
Donc analyse.
Ouais, ouais. Donc pas production animale.
Non.
T'avais préféré prendre la côté gestion.
Ouais.
Ok.
Et puis.
Pourquoi
la côté gestion?
Ouais.
Oh, parce que c'est. Pour moi, les animaux, on en apprend toujours. Enfin, on apprend plus facilement sur le tas pour moi. Et la gestion, il me semble que de bonnes bases est important pour. Parce qu'avant tout, notre métier, c'est quand même d'être d'une entreprise.
Et donc une fois ce BTS terminé. Qu'est-ce que tu reviens tout de suite? Qu'est-ce qui se passe?
Une fois ce BTS terminé, j'entame un CS transformation des produits fermiers.
Donc un CS, c'est un diplôme en fait de certification, de spécialisation.
Ouais. Spécialisation. C'est pas compté comme un bac plus 3, mais c'est une spécialisation. Donc sur la transformation fromagère.
D'accord.
C'est quelque chose qui me bottait beaucoup,
oui,
entre guillemets.
C'est le terme.
C'est le terme. et puis après, c'est quelque chose que j'aurais aimé mettre en place sur la ferme, Donc voilà.
Ok, d'accord. Une fois que tu as fini CS.
Une fois que j'ai fini CS, mes parents étaient déjà bien un petit peu à l'âge de prendre la retraite. D'accord. J'avais encore que 2 années devant moi.
D'accord.
J'ai fait un peu de salarié agricole sur le secteur et puis j'ai commencé mon stage reprise sur la ferme.
Ouais, donc du coup, tu es devenu aide familiale sur la ferme et...
Ouais, en quelque sorte.
Ouais, ok, d'accord. Comment ça s'est passé, tout le moment où tu as préparé ton installation? Est-ce qu'il y a eu des moments un peu plus difficiles? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont paru finalement très faciles? Comment ça s'est passé?
Ben, étant donné que c'était plutôt une ferme familiale, donc j'avais déjà beaucoup de projets qui étaient déjà dans ma tête à la base. Donc c'était plutôt facile entre guillemets. Et puis quand vu que mon papa était cédant et il le souhaitait avant tout que ça se transmette, donc c'était plus évident.
D'accord.
Il m'a beaucoup laissé gérer cette partie-là. Et d'ailleurs, il m'a jamais empêché de faire quelque chose ou d'aller de l'avant.
D'accord. Et quand tu reprends, tes premiers projets vraiment qui te tiennent à cœur et qui sont que tu mets en place dès ton installation, c'est quoi? Rien fait du tout de ce que j'avais prévu.
Non, on a toujours plein de projets. Donc nous, ça a été la mise aux normes du bâtiment en bas. Pour pouvoir répondre aux normes et simplifier aussi le travail.
Ouais, d'accord.
Voilà, après, mon projet principal qui était la transformation fromagère, il est resté de côté parce qu'il manquera des bras et il en manque toujours.
D'accord.
Donc, voilà.
Est-ce que tu te souviens le jour, la date où tu es devenu agriculteur officiellement? Est-ce que tu t'en souviens? Pourquoi tu avais pris une cuite? Ok, donc tu as fêté ton installation. C'est bien, c'est important.
Bah déjà, il y a deux fois. Il y a une fois où je suis rentré dans la société, parce qu'on a fait une société.
D'accord.
Et donc là, déjà, on avait fait la bringue la veille, et donc c'était le lendemain. Ouais. Personne n'y était capable.
D'accord.
Et ensuite, j'ai repris le 1er janvier, donc on fait toujours le nouvel an.
Voilà. Ok, j'ai bien compris que c'est genre. Ok, d'accord. Et est-ce que, quand même, à un moment, combien de générations avant toi il y a eu sur cette ferme? Tu le sais ou pas?
Bah ici, c'est vraiment la ferme historiquement. Il y a des écrits sur les façades de 1896. Et après, c'était plutôt. À l'époque, on était plutôt paysans, plutôt de subsistance. Quoi.
Oui, bien sûr.
Donc tout le monde avait quelques vaches.
Ouais.
Et après, c'est-à-dire que quand mon papa s'est installé en 1982-3, là, c'est là qu'ils ont refait la structure.
D'accord. Mais du coup, ta famille, elle est présente sur cette ferme-là depuis 1800 et quelques.
Ouais, 1800.
Est-ce que quand tu t'es installé, le poids de l'héritage, tu l'as ressenti? Est-ce que tu as senti que tu avais une responsabilité supplémentaire par rapport à quelqu'un qui serait peut-être hors cadre familial et...
Non, parce que c'était déjà ancré en moi, toute cette histoire de tradition et d'ancrage familial.
Ouais. Donc, c'était pas à ce moment-là que tu as ressenti?
Non,
que c'était peut-être plus tôt, quoi.
Ouais.
D'accord, c'était vers quel âge du coup que tu t'es dit peut-être que j'ai un peu moins le droit de me louper que...
Non, de toute façon, ce qui m'inquiète toujours, c'est qu'on dit la première génération construit, la deuxième profite.
Mais t'es la huitième, donc tu t'en fous.
Je m'inquiète toujours.
Je suis annihilé par les années, là, c'est foutu. Donc moi j'ai vu l'endroit où tu exerces ton métier. Pour ceux qui écoutent, est-ce que tu peux décrire un peu ta ferme, l'environnement qui l'entoure, le contexte dans lequel tu travailles?
Et ma ferme, elle est en périphérie de village,
ouais.
Avec beaucoup de résidences secondaires. Et donc en fait, je traite les vaches face au Mont Blanc toute l'année.
Voilà. C'est pas désagréable, quoi.
Non, c'est pas désagréable.
On est d'accord. Il y a pire.
Il y a pire dans la vie. Okay. Mais c'est un choix.
J'imagine. Et donc, en gros, combien tu as de vaches? Quelle est la structure maintenant de ton exploitation?
Donc aujourd'hui, notre exploitation, elle est à peu près 35 vaches laitières. Donc de race abondance et une tarine.
Évidemment, toujours. Et c'est la préférée ou c'est la plus agaçante?
C'est celle de mon papa.
D'accord, voilà. Ça veut dire que c'est la plus agaçante.
Depuis 2 ans, nous exerçons la montée en alpage de nos animaux.
D'accord.
On part avec eux à peu près autour du 15 juin jusqu'à fin août, début septembre.
D'accord.
Là, on va sur un alpage qui est un petit peu plus loin, donc sur la commune de Megève.
Et après, ton lait, il sert à quoi aujourd'hui, du coup, vu que tu le transformes pas à la ferme?
Donc, notre lait. Donc, le lait produit de nos vaches, on fait à peu près 160 ml de lait. Ils partent donc à la coopérative des fermiers savoyards en AOP Reblochon.
D'accord.
Et puis l'été, du coup, la spécificité, c'est que l'alpage, il est en appellation Beaufort.
D'accord.
Et donc l'alpage, on l'a repris avec une autre exploitation. On s'est associé pour la durée d'estive.
D'accord.
Et là, on a le droit de produire 50 ml de lait en zone Beaufort.
Donc on va revenir sur l'alpage. Quand tu dis on a réussi à avoir accès à un alpage, ça veut dire que toi, historiquement, alors je ne connais pas du tout le système d'alpage. Toi, tu as la propriété des terres autour de ta ferme et des champs?
Absolument pas, c'est tout en location.
Tout en location, ok. Et les alpages, c'est de la location aussi?
Oui, tout okay. est en location.
Et vous vous êtes associé parce que c'était la surface était trop grande? Enfin, comment ça se passe de réussir à avoir un alpage?
Donc, tout simplement, il y avait un alpage qui était mis en location par la commune.
C'est les communes qui ont les alpages?
Pas toutes, mais celui-là, okay. Voilà. Et nous, ça faisait très longtemps qu'on cherchait un alpage, parce qu'on restait, historiquement, on restait autour du bâtiment toute l'année, mais ça devenait un petit peu ingérable.
Parce qu'il n'y avait pas assez d'herbe.
Avec les sécheresses estivales, un peu plus d'animaux, il ne faut pas se le cacher.
Ouais.
Et puis, ça devenait un petit peu compliqué de gérer aussi les vaches avec le village, etc.
D'accord.
Parce qu'on allait toujours un peu plus loin à l'herbe, etc.
Ouais,
etc.
Ok, d'accord.
Bien que c'était encore facile. Enfin, c'était
oui,
correct.
Allait, mais voilà. Tu sentais que ça pouvait se tendre sur les années qui arrivent, quoi.
Ouais, ça se tend. Ouais. Donc, Frédéric et Marilyn, mes associés d'été, donc, m'ont appelé. Ils avaient vu, tout comme moi, la proposition d'alpage. Et ça s'est fait comme ça. On s'est appelé, puis on a discuté.
Ouais.
Et on a posé un dossier.
D'accord. Donc ça veut dire que pour l'été, vos vaches, elles sont mélangées?
Nos vaches, tout notre travail est mélangé, ouais.
Et donc, elles sont traites en même temps, et votre lait, vous le vendez ensemble
voilà.
au Beaufort. D'accord,
donc,
ok.
On a constitué un groupement pastoral.
D'accord.
Et tout est mélangé.
Ok. Oui. Et en fait, ma question, elle est très innocente. Le fait de changer la livraison du lait, la coopérative, ça lui pose pas problème l'été qu'elle n'ait pas de lait pour le reblochon?
Eh bien, on n'a pas eu trop de problèmes par rapport à ça.
D'accord.
Voilà, donc pour le Beaufort, du coup, c'est du Beaufort d'alpage, donc c'est intéressant pour la coopérative de Beaufort.
Ah oui, d'accord.
Et puis après, c'est sûr que pour le reblochon, il perd un petit peu de lait sur la fin d'été, ouais. qui serait très intéressante à ce moment-là, mais bon, il n'y a
oui,
pas...
Oui, d'accord. Par rapport au cahier des charges, j'imagine que tu as plein de choses à respecter pour produire. C'est quoi les grandes lignes, c'est quoi les grands trucs que tu as respectés pour le reblochon, et puis après, on parlera du Beaufort?
Et eh ben pour le reblochon principalement, donc déjà c'est d'être dans la zone
oui, ça,
européenne,
oui,
donc ça paraît logique.
Oui, effectivement, c'est la première condition.
C'est la première condition. Ensuite, c'est du pâturage, beaucoup de pâturage.
D'accord.
C'est ce qu'on demande. 150 jours de pâturage pour la zone reblochon.
Ok.
C'est des races d'animaux.
D'accord.
C'est du foin sec l'été, pas d'ensilage. Du foin de entre guillemets zone, c'est-à-dire de la zone
AOP. Tu peux pas. Ça veut dire que par exemple en période de sécheresse, si t'avais pas assez d'herbe, tu peux pas acheter du foin extérieur à la zone.
Eh ben on a le droit. Il faut qu'on ait 60% de foin de zone dans notre
D'accord.
alimentation.
D'accord. Ok.
Nous qui sommes à 850 mètres d'altitude.
Ouais, d'accord.
En dessous, il me semble que c'est zéro.
D'accord.
Enfin, c'est 100% de fin de zone.
Oui, d'accord, ok. Du coup, j'imagine que tes prairies, c'est que des prairies naturelles?
Nous, c'est tout en prairies naturelles, exactement.
Ouais. Alors, on a tendance à dire. Moi, j'ai un peu du Massif Central, donc on défend que l'herbe, c'est une culture.
Oui.
C'est une culture végétale et que ça pousse pas tout seul. Concrètement, avec tes conditions, toi, climatiques, le fait d'être en altitude, comment tu fais pour travailler tes prairies naturelles? Comment tu interviens sur tes prairies?
Déjà, dès que la neige est partie.
Oui, voilà, tu vois, déjà ça, c'est
déjà. Comment j'interviens? Donc, on travaille plutôt avec des engrais de ferme, déjà. Donc, on met le printemps arrivé. Dès que la neige est fondue et en fonction des coteaux, ça peut être de 10-15 jours d'écart facilement avec l'altitude. Et ensuite, donc on va faire un apport de cet engrais-là. Et ensuite, soit les animaux vont pâturer, soit on va les faucher. Ça reste assez simple en fait.
D'accord.
Il
n'y
a pas de retournement, il n'y a pas de culture.
D'accord.
Ça reste que de la prairie naturelle.
Le fait justement que les prairies elles soient enneigées une bonne partie de l'hiver. Est-ce que ça change quelque chose sur la façon dont tu gères tes prairies?
On peut faire du ski dessus.
C'est déjà pas mal. Oui, effectivement.
Moi, ça me va bien, hein, mais... mais du coup, ouais, en fait, on a la... moi j'ai entendu des fois que la neige ça faisait des apports.
Oui, après, il y a certains dictons d'anciens qui disent qu'ils voient que un coup de neige du printemps fait un coup d'engrais. On entend plein de choses, après, ça n'a jamais bien mesuré.
D'accord.
Il me semble pas. Ouais. Je sais pas.
Aussi, ça
déjà, ça apportera un peu d'eau, sûrement.
Ouais, plus d'eau, ouais, d'accord. Ok, pour le Roblechamp, sur le Beaufort, c'est quoi les critères qu'il faut que tu respectes?
Donc, nous. Encore une fois, donc, c'est d'arriver sur la zone l'été. Oui. Respecter, donc, c'est les races.
Ouais. Donc, c'est les mêmes que pour le...
Ouais. Ouais. Non, c'est en Roblechon, c'est Abondance, Montbéliard et Tarine.
Ouais.
Et en Beaufort, c'est Abondance et Tarine.
D'accord, ok. Ouais, donc, tu ne pourrais pas avoir une Montbéliard.
Non,
ouais.
Je ne pourrais pas avoir une Montbéliard. Donc, c'est vraiment en Beaufort d'Alpage, donc c'est que de l'herbe. Il n'y a aucun foin sec.
D'accord.
Des concentrés, en termes de concentrés, c'est 1,5 kg de céréales jusqu'au 1er août,
ouais.
Par vache et par jour. Et puis, à partir du 1er août, on a le droit à une VL16, entre guillemets.
D'accord.
Voilà. Et toujours 1,5 kg
de céréales. Voilà.
Donc, c'est vraiment une conduite plus extensive avec maximisation de l'utilisation de l'herbe.
Ouais.
Donc, c'est vrai que ça paraît plus facile à gérer. Quand on parle d'extensivité, mais en fait, il faut vraiment être très assidu sur la pousse de l'herbe,
ouais.
Avec l'altitude, pour vraiment maximiser l'utilisation de l'herbe et l'utiliser au bon moment.
Ouais. Et la pousse de l'herbe à d'altitude, alors c'est 21 jours si je ne me trompe pas, l'herbe. Non. Enfin, nous, ce qu'on dit, c'est qu'elle pousse en 21 jours. Est-ce que vous, du coup, c'est pas la même chose?
Non, nous, c'est pas vraiment la même chose parce que donc l'alpage est à 1850, ouais. Le chalet. On achète l'alpage à 1850 mètres d'altitude. Donc l'alpage, il s'étend de 1700 mètres à 2200 mètres.
Ouais.
Donc il reste encore un petit peu de neige sur les envers, ouais. Quand on arrive à l'alpage, donc la pousse de l'herbe est tout à fait différente en alpage.
D'accord, ok. En alpage, du coup, vous n'y habitez pas pendant la période de, enfin, où les vaches y sont?
Si, on dort là.
Vous avez, ouais. Un chalet où vous pouvez dormir?
On dort là, et on rentre les animaux dans le chalet de toute façon. Pour traire.
D'accord, le soir, ils rentrent, et le soir, elles ressortent,
ouais,
pour...
Ouais, elles rentrent et elles sortent pour la traite.
D'accord, ok. Comment vous faites pour descendre le lait?
Donc on a en Beaufort, la particularité c'est qu'on travaille avec un lait chaud et un lait froid, donc puisque le lait est transformé tout de suite après la récolte du lait.
D'accord.
Donc on doit descendre le lait pour 6h30 le matin au parking, donc on a une demi-heure de chemin, on part à 6h du chalet.
Donc ça veut dire qu'il faut que vous ayez trait à partir de 5h.
Il faut que le lait soit dans la boule du lait chaud,
ouais.
À 6h il faut que ce soit fini.
D'accord. Et le soir, à quelle heure vous devez le descendre?
Donc le soir, on a une particularité, donc on travaille avec un lait froid.
D'accord.
Qui a froidi, donc en dessous de 16 degrés. Donc on n'est pas ramassé le soir.
D'accord. Donc vous descendez tout le lait en fait chaud
le
et
matin.
Froid le matin.
Mais on a deux compartiments.
D'accord. Ok. D'accord. Et ici, au niveau de la ferme, quand tu traites pour Roblechon, il y a un laitier qui passe.
Ouais, le laitier passe le soir.
D'accord.
Souvent.
Ok.
Si les conditions sont un peu difficiles, puisque notre accès à la ferme est un peu, ouais. difficile, on descend le lait à la route.
Pour aujourd'hui, toi, le fait d'avoir récupéré cet alpage, donc on t'a compris, ça te permet de gagner en sérénité par rapport au village, de gagner un peu en autonomie fourragère. Est-ce que, au-delà, le fait de produire pour ce nouveau, pour Beaufort, puisqu'avant tu ne pouvais pas, ça a changé d'autres choses dans ta conduite d'exploitation?
Bah déjà, nous, l'alpage, c'était quelque chose qu'on souhaitait, et on vit alpage, entre guillemets, c'est quelque chose qui nous apporte plus en tant qu'éleveur.
Ouais.
Et ça, c'est plutôt personnel.
Quoi. Ouais,
c'est
bien sûr.
Vraiment un sentiment de conduite. On vit encore plus avec la nature, puisqu'on va suivre, ouais. suivre la pousse, quoi, de l'herbe. C'est plutôt la conduite d'exploitation. On va voir différemment. Avant, on avait quelques vélages l'été.
Ouais.
Maintenant, on a arrêté parce que c'était ingérable. Ouais. Donc, c'est le niveau du travail.
Ouais. D'accord. Voilà. Comment tu les amènes à l'alpage, tes vaches? Tu les transhumes à pied ou
Donc, on transhume une partie en bétaillère. Et après, dès qu'on arrive sur le chemin, on part à pied.
D'accord, ok.
Donc on fait à peu près, ouais, on a trois quarts d'heure, une heure de bétaillère, et puis on a 2 heures de marche.
Et tes vaches, tu sais à peu près combien elles marchent dans la journée quand elles sont à l'alpage?
entre guillemets, déjà, depuis toujours, nos vaches ont beaucoup marché, mais le début d'alpage et le chalet, déjà, on a 1 km.
Ouais, cool. D'accord. Donc,
donc après, le temps qu'elles mangent, oui, elles marchent beaucoup.
Ouais, ok.
Des athlètes.
Ah oui, oui, c'est ça, par rapport à d'autres vaches, c'est rigolo. Tu as dit tout à l'heure dans ta présentation que tu étais soucieux de la nature, je ne sais plus exactement comment tu as dit, mais en tout cas, que tu travaillais avec la nature. Concrètement, ça veut dire quoi pour toi, dans la façon dont tu es agriculteur? Tu l'appliques comment?
C'est d'essayer d'aller dans son sens au maximum, c'est-à-dire essayer de respecter la saisonnalité de certaines choses. bien que ce soit une entreprise et qu'il fasse quand même, que l'entreprise tourne, il faut quand même avoir conscience qu'on travaille avec elle et essayer d'aller dans son sens aussi.
Tu as aussi parlé du fait d'être dans des associations, d'être investi dans le milieu rural, d'être un peu connecté avec les traditions. Est-ce que l'alpage, est-ce que d'avoir cet alpage, ça t'a permis aussi finalement de poursuivre cette agriculture de montagne
Oui, c'est ce que j'ai dit, c'est vraiment un sentiment, c'est une continuité, c'est aussi un peu ce qui me. C'est la continuité, le filon qui me manquait un petit peu pour être
que
encore plus
cherché
épanoui.
Avec la transfo peut-être
Oui, voilà.
Ouais,
Il y avait, deux cordes qui me manquaient encore un peu, c'était l'alpage et la transfo. Mais c'est vraiment le ressenti et puis le dernier sentiment où on est encore plus heureux, quoi.
D'accord. Donc ça veut dire que le jour où tu as eu l'alpage, t'as...
Bon,
le lendemain, tu n'as pas très non plus.
On a bu une bouteille de champagne avec mon associé.
Et justement, comment ça se passe l'association? Parce que vous n'êtes pas dans une structure comme on a tendance à connaître, les GAEC, tout ça, j'imagine. Est-ce que vous avez une société particulière? Comment ça se passe hein?
Donc, ça s'appelle un groupement pastoral, tout
D'accord.
simplement. Donc, on a ces groupements pastoraux, c'est très présent sur la Savoie et un peu sur la Haute-Savoie. Après, je ne sais pas dans les
oui,
autres
non.
départements.
On en a un peu aussi.
C'est des sociétés qui sont faites pour la gestion d'alpage.
D'accord.
Principalement.
Okay.
Donc nous, après, donc on mélange tout, comme on l'a dit tout à l'heure, et ensuite on se répartit les bénéfices ou les pertes en fonction du litrage de lait des vaches.
D'accord. L'alpage, j'imagine qu'il donc s'il est au-dessus de Megève, on a tous entendu parler de Megève, la cohabitation, alors l'été, il y a peut-être un peu moins de monde, mais il y a quand même du tourisme. Comment ça se passe, la cohabitation en montagne avec les autres utilisateurs de la montagne?
Donc nous, on est sur un alpage où il y a beaucoup quand même de cyclistes. Maintenant, avec le vélo électrique, ça serait vraiment démocratisé. Étonnamment, une personne en bas, à la ferme en bas, avec des qui nous suivrait lorsqu'on rentre les vaches, aurait tendance à grogner, entre guillemets. Étonnamment, la discussion avec l'alpagiste en montagne, c'est vraiment, ça coule de source. Les gens sont beaucoup plus faciles d'accès.
D'accord.
Et on va beaucoup plus aller dans la discussion sans pour autant aller dans le conflit, quoi.
Ouais. Et justement, sur toute l'image de l'agriculture, parce que malgré tout, je veux pas faire de clichés, mais les gens qui viennent à Megève, c'est plutôt des urbains en général qui viennent en vacances à Megève, en général, c'est pas des ruraux. Et du coup, ça veut dire que ben, finalement, ce lien rural-urbain dont on parle souvent, dont on dit qu'il est distendu, que les gens critiquent l'agriculture sans la connaître, enfin voilà. Est-ce que toi, tu réussis des fois, de par des discussions comme ça sur l'alpage, à recréer un peu de lien avec ce genre de population ou,
Bon, on essaye, mais ça reste assez difficile. Et puis après, c'est bien souvent celui qui veut venir dans le contact avec l'alpagiste,
il est déjà
convaincu.
Ouais, d'accord. Et est-ce qu'à contrario, vous avez, alors on a dit quand on transporte les vaches, enfin quand on fait marcher les vaches sur la route, mais est-ce qu'à contrario, vous avez des fois le sentiment que vous dérangez, mais que finalement cette utilisation touristique de la montagne, vous qui êtes là pour y travailler avec vos animaux, ça peut générer des tensions.
Ah mais oui.
Ouais.
C'est souvent le cas. L'agriculture, elle a beaucoup d'externalités un peu pas négatives, elle est positive bien sûr. Elle entretient le paysage et ça on l'oublie souvent. Mais c'est vrai que de par notre travail, on va faire des choses que les gens vont pas comprendre. On va dépasser les animaux, il y aura des boues sur les routes bien sûr. Les routes seront pas toujours propres. On va faire de la poussière quand on va faire du foin. Quand on va faire dépendre nos efforts, il y aura un peu d'odeur. Voilà, c'est plein de choses. Les gens viennent à la campagne, soi-disant ils le savent au début, mais on oublie vite, quoi.
Ouais, d'accord.
Du coup, c'est vrai que quelquefois c'est un peu délicat, quoi.
Ouais, ouais.
Et puis il y a aussi des fois la vache qui a pas envie de passer par là et qui passera dans la pelouse, qui a fraîchement été semée, d'une résidence secondaire à quelques millions d'euros. C'est délicat.
Ouais. Après, par rapport à tout ça, justement. Les municipalités, enfin les associations, est-ce que ça vous permet, elles vous aident aussi à quand même asseoir votre rôle et au fait que vous êtes nécessaire au maintien de ces paysages et que voilà les petites externalités négatives, il faut les supporter, ou est-ce que vous sentez des fois que vous êtes un peu seul?
Pas évident pour moi, ça c'est vraiment quelque chose qui est dur et expliquer aux gens quand même que la montagne n'est pas à tout le monde non, enfin il y a des gens qui travaillent, du coup ça se respecte.
Ouais.
Ça c'est délicat.
Ouais. Non mais ça, je le percevais aussi déjà hier chez Marianne.
C'est vraiment quelque chose qui est dur. Hein, et la semaine passée, je suis redescendu d'alpage. Par exemple, je descends, il y a des parapentistes qui étaient en train de faire des cours d'ouverture de voile dans du regain qui avait 4 semaines, donc qui allait être bon à couper. Je remonte 5 minutes plus tard, il y avait une foreuse qui était en train de faire un trou dans un champ.
Chez vous?
Ben, enfin, dans, qu'on loue, quoi. Ouais. Mais c'est les propriétaires qui nous ont pas prévenus, quoi.
D'accord.
Donc en fait, on se dit qu'on est la dernière roue de la charrette. C'est ouais. vrai que c'est le plus dur à accepter pour moi.
Et justement, alors j'ose même pas te demander le prix du foncier. Tu l'as dit, vous avez tout en location. Est-ce que les décisions d'urbanisme et tout ça, aujourd'hui, elles vous protègent quand même sur vos terres? Est-ce que tout n'est pas constructible, quoi?
Ben, moi, c'est ce que j'ai aidé aussi. Donc c'était aussi pour ça ça fait très longtemps que j'ai un alpage pour avoir vraiment aussi cette ouverture l'été et pour se sauver, parce que c'était une pression ingérable. On est aux portes du village.
Ouais.
On a beaucoup de terrains qu'on exploite qui sont dans le village. Et la politique aujourd'hui d'urbanisme, pardon, c'est de resserrer au cœur de village. Oui. Donc tout ce qu'on exploite dans le village, c'est vrai que c'est voué à disparaître.
Ok, tu le sais d'ores et déjà et...
Mais je savais dès que je m'étais installé, de toute façon, en suivant un peu les politiques d'urbanisme, etc. etc. on n'est pas fou, quoi.
Ouais, d'accord. Et donc juste pour revenir aussi à ce que tu disais sur les fêtes de village et les traditions, est-ce qu'à ces moments-là, justement, vous arrivez quand même à faire de la communication, à montrer aussi le côté ancestral depuis le temps où vous êtes là et que vous produisez, enfin, je ne sais pas depuis combien de temps, les produits Roblochon ou le Beaufort, mais je veux dire, c'est des choses qui sont très historiques. Est-ce que vous arrivez à ce moment, dans le cadre de ces fêtes, des comices et tout ça, vous arrivez à discuter?
Ben, comme je dirais, on a toujours le convaincu.
Ouais.
Donc celui-là, il est avec nous, il le sait. Mmh. Certaines personnes du village le savent et en sont convaincus aussi. Donc, si on a toujours été là, ils nous ont toujours vus, donc ils se posent pas la question.
Ouais.
Mais est-ce que après c'est la valeur des choses et c'est l'argent qui fait le reste, quoi.
D'accord. Ouais, ça gâche un peu tout, quoi.
Ouais.
Ok. Est-ce que tu es fier toi aujourd'hui de produire du Beaufort et du lait pour Beaufort et pour Roblechon?
Ah ben bien sûr, de faire du lait cru et avoir travaillé dans ces filières lait cru, c'est quelque chose qui m'apporte et sans quoi je... Enfin, c'est vrai que c'est vraiment une finalité qui est très importante pour moi.
Ouais. Tu pourrais être agriculteur ailleurs?
Dans ce cas-là, je transformerais mon lait.
D'accord, ok. Est-ce que tu t'es déjà posé la question?
De transformer?
De changer d'endroit.
Non, parce qu'il y a le poids des tradés.
Non, mais...
Ben, je me suis posé la question, hein, par amour, mais... c'était quand même ici mes racines.
Souvent, on dit que l'agriculture, c'est un domaine où il y a des valeurs, où les gens sont valeureux. C'est quoi pour toi les valeurs de l'agriculture?
Eh ben, il me semble, depuis tout à l'heure, on en parle. Enfin, je reste persuadé, de toute façon, que l'agriculture, c'est le paysan. Le paysan, c'est le paysage. C'est des mots qui ont une racine. C'est vraiment une intégration complète avec la nature. C'est pas parce que je pas pour autant on n'est pas pour autant une exploitation d'agriculture bio,
ouais,
mais c'est
ouais.
pas pour autant qu'on ne respecte pas la nature, quoi. On travaille avec des filières qui ont été créées par nos ancêtres, pardon, et pour moi c'est ça l'agriculture, c'est un patrimoine à transmettre.
Voilà. T'aimerais le transmettre toi un jour?
J'aimerais, mais je sais pas si ce sera possible.
D'accord.
C'est ce qui me pèse le plus.
Ah ouais?
Mmh.
D'accord, ok. Non, mais justement, tu dis je suis pas en agriculture biologique. Il faudrait que tu changes. Enfin, pourquoi? Et si tu voulais l'être, est-ce que tu aurais quelque chose à changer finalement sur ton système qui a l'air déjà bien.
Nature
d'y ressembler, quoi. J'allais dire vertueux, mais j'ai pas envie de dire que la conventionnelle est pas vertueux parce que c'est pas vrai. Mais qui a l'air de s'approcher d'une agriculture où il y a le moins d'interventions.
Ben, pourquoi? Parce que tout simplement, on donne des concentrés. Pour moi, l'agriculture biologique, elle est autonome complètement.
Ouais.
Et nous, on l'est pas, on donne des concentrés à nos animaux. Pour moi, quand on le fait pas à soi, c'est un avis personnel.
Ouais, bien sûr, mais de toute façon,
c'est ça qui me manquerait, quoi.
D'accord, ce serait.
Voilà. Et puis après, on fait partie d'AOP. Et donc pour moi, déjà là, quand on fait partie de ça, on a certaines valeurs.
Mmh.
Donc, déjà, on est pas mal.
Ok. L'entente entre les agriculteurs, on a parlé un peu avec les extérieurs, mais entre agriculteurs, elle est comment l'entente sur le territoire?
Et bien, sur la commune, on est quand même un bon petit paquet de jeunes. Après, c'est pas parce qu'on est un village de Haute-Savoie qu'on est beaucoup cousins. Bon, j'ai pas mal de cousins qui sont agriculteurs.
Ils ont tous le même nom, avec un autre nom derrière pour changer du premier.
Mais voilà. Non, mais ça se passe bien, et même sur le village. vraiment pas mal beaucoup d'entraide et, ouais. Et on sait que s'il y a quelque chose, voilà.
Il y a un mot que depuis que je suis en Haute-Savoie, là, depuis deux jours, j'ai pas entendu, c'est le mot cumin. Est-ce qu'il y en a pas ici?
Si, si, il y a des cumas.
Il y a des cumas, ouais.
Il y a une cuma qui est assez, d'ailleurs, qui est assez dilemme.
D'accord, ouais. Vous avez des cumas aussi.
Donc, ouais, après, principalement sur des engins, pas forcément de fenaison. Parce que la fenaison, ça reste délicat. Et
puis tout le monde veut la faire en même temps.
Ouais, tout le monde veut la faire en même temps. On a des morceaux plutôt petits. Donc, on a C'est vrai qu'il y a beaucoup de morcellement quand même. Donc, c'est vrai que c'est délicat à ce niveau-là. Mais après, sur du matériel entre guillemets secondaire, oui, elle est très dynamique.
Toi, tu fais partie de la génération où le changement climatique, le bien-être animal, toutes ces questions-là, tu en entends parler depuis, j'imagine, tes études. Le début de ton activité d'agriculteur. Est-ce que tu as mis des choses en place, on va déjà commencer par le bien-être animal, pour tes animaux sur ton exploitation? Tu l'as dit, j'ai mis aux normes mon bâtiment pour aussi me faciliter le travail. Est-ce que du coup tu en as profité pour...
Bien sûr, nous, lorsqu'on a fait la mise aux normes entre guillemets du bâtiment, lors de l'installation, donc nos nouveaux sont encore en box collectif, etc. Chose qui n'était pas le cas avant. Après, sur le bien-être animal, déjà, il me semble, ça dépend, mais c'est aussi c'est très personnel, le bien-être animal, mais il me semble qu'on prend soin de nos animaux. Donc déjà par là, on a du bien-être animal.
Est-ce qu'elles ont toutes un nom?
Bah oui, elles ont toutes un nom. Ouais.
Alors, c'est qui la plus sympa?
Bon, la plus vieille, c'est Cerise.
Et la plus relou.
La plus relou,
c'est la Tarina. C'est la Tarina. Elle s'appelle comment?
Elle s'appelle Orzul, c'est une rissole en patois.
Et donc, sur le changement climatique, déjà, est-ce que toi, depuis quelques années que tu es installé, tu constates des choses? Est-ce que tu... Enfin, voilà, comment tu le vis voilà.
Bah, c'est sûr que, voilà, les saisons d'été démarrent plus vite. Très tôt, on fait beaucoup plus vite les foins. Ça, c'est quand on croise quelqu'un qui est un peu plus âgé, il nous dit « Dis-donc, mais t'as déjà fini les foins ?» Bah oui, avant les foins commençaient au 1er juillet, maintenant ils sont terminés. Enfin, il faut que ce soit terminé. Bah, beaucoup plus chaud l'été, hein, ça, c'est sûr. Et puis un peu moins de neige l'hiver aussi.
D'accord. Tu l'as un peu dit, l'alpage, ça te permet de gagner en autonomie fourragère aussi. Est-ce que pour toi, il y a d'autres choses que tu risques de devoir mettre en œuvre pour t'adapter, parce qu'on ne lutte pas contre le changement climatique, on s'adapte. Ou est-ce que finalement, déjà, c'est une bonne solution et c'est une source un peu de soulagement pour toi d'avoir vraiment attrapé cet alpage?
L'alpage, c'est vraiment un soulagement. Ouais. C'est clair, hein, parce que ça apporte beaucoup d'autonomie et puis aussi, c'est plus haut. Donc après, ce sera peut-être la durée d'alpage qui sera plus longue, en fait.
Ouais, c'est ça.
Tout simplement. Sur les cultures du bas, qu'on fait pas très peu de culture, on va peut-être mettre en place certaines choses pour renforcer nos prairies, mais
ce sera pas...
Mais ça ne sera pas des gros changements.
Ouais. D'accord. Est-ce que toi, tu travailles sur les stations de ski aussi l'hiver?
J'ai arrêté cet hiver.
Il y en a beaucoup encore qui le font autour de vous, voir les doubles activités?
En agriculteur, sur la commune, il y en a un.
Parce qu'avant, on avait tendance à avoir cette image de l'agriculteur qui a 15 vaches et puis qui va les monter en alpage l'été et qui va faire moniteur ou pisteur. Et donc, toi, aujourd'hui, t'as arrêté parce que t'avais moins de temps
C'est que j'arrivais plus à faire face.
À tout faire, ouais.
Parce que c'est ce que je disais depuis le début, ça reste une entreprise. Hein, donc si on n'est pas là au bon moment, sur nos animaux aussi,
Oui, puis tu as les villages en hiver, du coup, maintenant.
Voilà, ouais.
Ouais, okay.
Donc on perd aussi pas mal. Hein.
D'accord. Ouais. Et après, sur tes animaux, le renouvellement, tu gardes des génisses, tu gardes des petites velles à toi, et les veaux, tu les vends, j'imagine, à une coopérative.
Voilà, exactement, c'est ça.
Quel est le dernier film que tu as regardé?
Je suis pas très film.
La dernière série que tu as regardée?
Moi, je regarde des courts-métrages.
Bon, on va dire un court-métrage. Le dernier achat que tu as fait pour ton métier?
Une paire de bottes.
Tiens, tu vois, impeccable. La dernière chanson que tu as fredonnée?
Que j'ai fredonnée, c'était Lola.
La dernière recherche Google que tu as faite?
C'était... Je cherchais une charnière pour un tracteur.
Ok. Est-ce que tu es fier aujourd'hui?
Je suis heureux.
Ouais.
Fier, on ne peut pas l'être.
Moi aussi.
Non, je suis content.
Mais t'es heureux. Ok. Si je vais voir tes amis et que je leur demande de me parler de toi, ils vont me dire quoi?
Ah, oh ben ça, faut leur demander.
Ça, c'est une réponse de Normand. Normalement, t'as le temps de savoir. Les 8 générations, mon œil, oui. Dernière question, comment tu t'y sens dans tes bottes?
Mes bottes, j'ai chaud.
T'as raison, il fait chaud aujourd'hui. Merci, Alexis.
À bientôt.
On peut reprendre la ferme familiale, mais ne pas subir de pression de la part de ses parents sur ses choix. On peut se dire qu'il faudrait bien y aller un jour, sur ce Mont Blanc, qui nous crée tant d'émerveillement et d'enquiquinement à la fois. On peut avoir trouvé assez de sens dans la production de lait pour des filières de qualité, au point d'abandonner le projet de transformer à la ferme. Enfin, on peut être heureux de travailler en alpage et de concilier toujours plus son activité économique avec la nature. C'est ça, être agriculteur aujourd'hui. À bientôt, dans de nouvelles bottes.
Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager ce podcast ou à le noter avec 5 étoiles sur Apple Podcasts. Laissez-nous un petit like ou un commentaire, nous serons infiniment heureux de vous lire. À bientôt, dans de nouvelles bottes.